Ça a commencé ? L'émission a commencé !
Debout !
Énorme ! Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances ?
Le football, il a changé.
Good morning tour.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Campus Tour. Nous sommes le vendredi 16 janvier, il est 7h16 et c'est le début de la matinale hebdomadaire des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Au programme aujourd'hui, Olivia nous parlera du nouveau rapport de l'INSEE qui montre un tournant démographique en France. Amy nous emmènera dans une fan zone marocaine dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, Lise reviendra sur la situation en Iran où la répression s'accentue. Et tout de suite, le Flash Info présenté par Joséphine Déo de Venins.
Les infos essentielles. Compte à rebours enclenché pour le budget. Le gouvernement supprime les débats prévus aujourd'hui et s'autorise jusqu'à mardi pour décider s'il pourrait recourir au 49.3 ou aux ordonnances pour le faire adopter. Face au blocage des débats, l'exécutif assure ne s'interdire aucune option. Une source gouvernementale estime que le budget ne peut désormais plus être voté normalement. Hier, le gouvernement a échappé à deux motions de censure déposées par LFI et le RN. Il est hors de question que les États-Unis acquièrent le Groenland, a dit hier soir le ministre des Affaires étrangères du Danemark. La première ministre danoise va recevoir aujourd'hui et samedi une délégation du Congrès américain à Copenhague, en présence du chef du gouvernement groenlandais. Cette visite intervient alors que la France et l'Allemagne participent à une mission militaire européenne au Groenland avec un nombre limité de soldats. La Maison-Blanche assure que ce déploiement n'a aucun impact sur la position des États-Unis. Les Américains affirment que l'Iran aurait renoncé à l'exécution de 800 manifestants. Washington précise toutefois que toutes les options restent sur la table côté américain, mais la coupure d'Internet imposée par les autorités iranienne se poursuit. Elle dure désormais depuis plus de 180 heures. Nos Français n'ont pas été gâtés lors du tirage du sort de l'Open d'Australie 2026. Hugo Gaston affronte d'entrée le numéro 2 mondial Yannick Sinner. Hugo Humbert tombe sur Bear Shelton et Valentin Royer sur Tyler Fritz. Chez les dames, Sarah Rakomantanga défiera la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka. Le tournoi débute dimanche 18 janvier sous le soleil de Melbourne. Vous avez trouvé l'année particulièrement chaude ? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. L'année 2025 a été la troisième année la plus chaude depuis 1900, selon l'Observatoire européen du climat. Nicolas vous en parlera un peu plus juste après.
Merci Joséphine. Rendez-vous dans 20 minutes pour un nouveau Flash Info. Comme vous venez de le dire, 2025 se classe parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées, selon un nouveau bilan publié ce mercredi par l'Observatoire européen du climat Copernicus. Nicolas Duverger, vous nous expliquez.
Lors du bilan à sonner, 2025 est la troisième année la plus chaude enregistrée sur Terre depuis 1900. C'est une des conséquences directes du dérèglement climatique. En 2025, ce sont les mois de janvier, février, octobre et novembre qui dépassent le plus les normales de saison mondiale, avec une moyenne de 0,65 degrés Celsius au-dessus des normales de saison. Janvier 2025 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré selon Copernicus. Le constat est frappant, l'étendue mensuelle de la glace de mer a été la plus faible jamais enregistrée pour cette période de l'année en janvier, février, mars et décembre, et la deuxième le plus faible en juin et octobre. Les objectifs de l'accord de Paris presque atteints bien avant l'heure, vouloir contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré voire 2 degrés maximum pourrait être systématiquement dépassé avant le début des années 2030, soit 10 ans plus tôt que prévu, alerte observatoire. Copernicus appelle donc à une réduction rapide des émissions.
Merci Nicolas, un rapport de plus qui renforce l'inquiétude des associations de protection de l'environnement. Vous êtes à l'écoute de Good Morning Tour, il est 7h20. C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon le bilan de l'INSEE publié ce mardi 13 janvier, en 2025, le nombre de décès en France a dépassé celui des naissances. Olivia Heidenreich nous parle ce matin de ce grand basculement démographique.
Et oui Clara, c'est exact. Selon l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, l'année 2025 aurait connu plus de décès que de naissances. Le dernier rapport de l'Institut fait état de 645 000 bébés nés l'an dernier, soit 2,1% de moins qu'en 2024 et 24% de moins qu'en 2010, année du dernier pic de naissance. En parallèle, 651 000 décès ont été enregistrés, soit une hausse de 1,5% en un an. Le solde naturel de la population a ainsi été négatif de 6 000 personnes en 2025. L'INSEE anticipait pourtant un croisement de ces deux courbes en 2035. Parmi les pistes d'explication, l'Institut mentionne l'arrivée des générations du baby-boom à des âges de forte mortalité, l'épidémie de grippe hivernale et, localement, des épisodes de forte chaleur durant l'été qui ont augmenté globalement le nombre de décès. On observe également un recul de la fécondité chez les femmes de 29 à 34 ans, soit la tranche d'âge où elles sont les plus fécondes. L'arrivée du premier enfant est de plus en plus tardive, avec un âge moyen de la maternité de 31,2 ans contre 30,4 ans, 10 ans plus tôt. Si la France s'est longtemps distinguée en Europe par son dynamisme démographique, cette époque semble aujourd'hui révolue. L'indicateur conjoncturel de fécondité a continué lui aussi de diminuer. Il s'établit à 1,56 enfants par femme, après 1,61 en 2024, soit le plus faible niveau depuis la Première Guerre mondiale. Une enquête de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, présentée la semaine dernière, montre que le manque de confiance dans l'avenir et le coût de l'enfant sont les deux premiers freins au projet familial.
Ce bilan est-il propre à la France et faut-il s'en inquiéter ?
Certains pays comme l'Allemagne ont toujours connu moins de naissances que de décès. Le solde naturel italien est lui passé en négatif en 1993, le solde polonais en 2013 et le solde espagnol en 2015, selon les données d'Eurostat. La France est le dernier grand pays de l'Union européenne à basculer en négatif. Et cette tendance s'accélère, puisque depuis 2020, le nombre de décès dans l'Europe des 27 est même devenu supérieur chaque année de plus de 1 million à celui des naissances. Mais en réalité, si on s'intéresse aux chiffres, on remarque que sur la même période, la population française a augmenté de 0,25%, comptant ainsi, au 1er janvier 2026, 69,1 millions d'habitants, avec un solde migratoire, soit la différence entre le nombre de personnes entrées et sorties du territoire, estimé à plus 176 000 personnes. Une tendance que l'on observe aussi au niveau européen, puisque malgré un solde naturel négatif depuis une décennie, la population européenne a continué à augmenter, tirée par un solde migratoire positif.
Dernier renseignement de ce bilan démographique, les Français et les Françaises se marient toujours plus. Avec 251 000 célébrations, le nombre de mariages augmente de nouveau en 2025. Au moins, l'amour prospère. Il est 7h23 et c'est l'heure de faire une petite pause musicale avec le titre Tango de Damiano David.
What a pretty little thing you are, I'll let you take a little piece of my heart. You remind me of a darker tiny dancer in the dark. What a pretty little thing you are, I'll let you do a pure head in my heart. Knew that I would be addicted to your lipstick from the start. A false evidence appearing real. Oh, how lovely, the way you dance wearing nothing. My ballerina, I still feel you here. When I tangle with the fear. Oh, honey, I would jump if you call me. My ballerina, I still feel you.
d'écouter Damiano David. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Tour. Il est 7h26. Changer de capitale, c'est assez rare. C'est pourtant le projet qu'a récemment entrepris le gouvernement indonésien. Mais ce qui se présentait comme un projet d'avenir vire aujourd'hui au cauchemar. Youn Rolin nous éclaire sur le sujet.
Oui Clara, on est en 1945 quand Jakarta devient officiellement la capitale de l'Indonésie, juste après la proclamation de l'indépendance du pays après une longue colonisation néerlandaise le 17 août de la même année. Aujourd'hui, Jakarta compte 11 millions d'habitants et plus de 30 millions à l'échelle de sa métropole. C'est la cinquième plus grande capitale du monde et la plus grande ville d'Indonésie.
Cette croissance fulgurante n'est pas sans conséquence, n'est-ce pas Youn ?
Oui Clara, en effet, cette croissance fulgurante n'est pas sans conséquence. Affaissement des sols, pollution, surpopulation, pour n'en citer que quelques-unes. À Jakarta, certaines zones s'enfoncent même de plusieurs centimètres par an, les embouteillages sont permanents et la qualité de l'air se dégrade. Pour désengorger la ville et offrir un bol d'air frais à Jakarta et à ses habitants, le gouvernement de Joko Widodo en place à l'époque décide en 2019 de délocaliser la capitale. Une nouvelle ville est alors créée sur l'île de Bornéo, Nusantara, un nom qui signifie « archipel » en français.
Alors où en est aujourd'hui ce projet très ambitieux ?
Rapidement, le projet a été présenté comme celui d'une capitale verte, moderne et à faible émission carbone, à l'opposé de Jakarta. Une véritable vitrine écologique et technologique censée incarner la ville du futur indonésien. Mais très vite, la réalité rattrape les promesses. Retard de construction, manque de financement, peu d'investisseurs et une ville encore presque vide. Beaucoup d'Indonésiens assument d'ailleurs ce désintérêt. Selon eux, l'argent investi dans Nusantara aurait pu et même aurait dû être consacré à des secteurs jugés plus prioritaires comme l'accès aux soins ou encore l'éducation. Cela n'arrête pourtant pas les ambitions du gouvernement indonésien, ni celles de son président contesté Prabowo Subianto, qui affirme vouloir transférer totalement le pouvoir à Nusantara d'ici 2028.
Pour l'instant, la capitale reste donc Jakarta. Entre urgence climatique et gestion politique contestée, le projet de changement de capitale continue de diviser la population indonésienne. La Coupe d'Afrique des Nations se joue actuellement au Maroc, mais aussi à des milliers de kilomètres dans les fan zones de Tours. Notre reporter Amy Wan est partie à la rencontre de supporters marocains qui se sont réunis à la résidence étudiante La Séquence pour suivre la demi-finale entre le Maroc et le Nigeria, un match remporté par le pays hôte.
Allez, bon nom !
Drapeau du Maroc sur les épaules, vêtu de maillots aux couleurs vert et rouge, les regards sont fixés sur l'écran. Les supporters vivent chaque minute du match avec intensité. Pas de vainqueur à l'issue de la prolongation, place à la séance fatidique des tirs au but. La tension est palpable lorsque l'attaquant marocain Hamza Igaman rate son tir, mais le Maroc s'impose finalement et décroche son billet pour la finale, déclenchant une explosion de joie des supporters réunis à la fan zone.
Alléluia, si tu marques, c'est bon.
Un match qui a été stressant pour eux jusqu'au bout.
Là, j'ai pas le mot. J'ai pas le mot pour même le moment.
Je suis très contente de l'équipe du Maroc. C'était un plaisir de voir ce match, de voir comment les Marocains jouent et comment ils supportent leur équipe. Et c'était aussi trop stressant pour moi.
Là, le Maroc, il a bien joué. On avait confiance en nos joueurs et surtout en notre gardien pour les pénaux. On est très fiers et on est très contents.
Êtes-vous confiant pour la finale ?
Ouais, pour la finale, Inch'Allah.
En attendant la grande finale prévue dimanche face au Sénégal, les supporters ont célébré cette qualification à la place Jean Jaurès en chantant l'hymne national du Maroc.
Un reportage d'Amy Wan, c'est la première qualification du Maroc en finale de la CAN depuis 2004. Les Lions de l'Atlas tenteront de décrocher une deuxième étoile après celle de 1976. Un enjeu local désormais, à deux mois du premier tour des municipales, l'association des usagers SNCF des lignes Tours-Paris a interpellé Emmanuel Denis sur X, dénonçant l'augmentation du prix des abonnements.
Plus de 600 euros, c'est le prix que payent chaque mois les détenteurs d'un abonnement SNCF Maxi Plus sur la ligne Tours Paris, permettant de réaliser 4 à 5 voyages par semaine. Un trajet très emprunté au quotidien par les Tourangeaux, qui seraient plus de 2500 à se rendre dans la capitale en TGV pour leur travail, selon l'association de défense des usagers SNCF. Pourtant, cette ligne est la plus chère de France au kilomètre et les usagers ne cessent de voir les prix flamber. Depuis 2023, les abonnements auraient augmenté de 20 à près de 30%, toujours selon le collectif, qui a interpellé le maire de Tours, Emmanuel Denis, sur X. À l'approche des municipales, Christophe Bouchet, candidat de la liste d'Union de la droite et ancien maire de Tours, s'est emparé du sujet, affirmant qu'il était nécessaire d'entamer un bras de fer sans aucune concession avec la SNCF.
Merci Rachel Giraudot. Selon le groupe d'opposition municipale, ces changements de prix pourraient affecter à terme l'attractivité de la ville de Tours. Il est 7h32, vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'EPJT sur 99.5 FM. Youn l'a réclamé à grands cris, alors voici le titre The Fate of Ophelia de Taylor Swift. On se retrouve juste après.
I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you'd never call for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me. A cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never call
you
est 7h36, vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'UPJT sur 99.5 FM. Et on retrouve tout de suite Joséphine Déo de Venins pour le nouveau flash info de cette émission.
Voici les infos essentielles. Compte à rebours enclenché pour le budget. Le gouvernement supprime les débats prévus aujourd'hui
et s'autorise jusqu'à mardi pour décider s'il pourrait recourir au 49.3 ou aux ordonnances pour le faire adopter. Face au blocage des débats, l'exécutif assure ne s'interdire aucune option. Une source gouvernementale estime que le budget ne peut désormais plus être adopté par un vote. Hier, le gouvernement a échappé à deux motions de censure déposées par LFI et le RN. Il est hors de question que les États-Unis acquièrent le Groenland, a dit hier le ministre des Affaires étrangères du Danemark. La première ministre danoise va recevoir aujourd'hui et samedi une délégation du Congrès américain à Copenhague, en présence du chef du gouvernement groenlandais. Cette visite intervient alors que la France et l'Allemagne participent à une mission militaire européenne au Groenland, avec un nombre limité de soldats. La Maison-Blanche assure que ce déploiement n'a aucun impact sur la position des États-Unis. Les Américains affirment que l'Iran aurait renoncé à l'exécution de 800 manifestants. Washington précise toutefois que toutes les options restent sur la table côté américain, mais la coupure d'Internet imposée par les autorités iraniennes se poursuit. Elle dure désormais depuis plus de 180 heures. Nos Français n'ont pas été gâtés lors du tirage au sort de l'Open d'Australie 2026. Hugo Gaston affronte d'entrée le numéro 2 mondial Yannick Sinner. Hugo Humbert tombe sur Ben Shelton et Valentin Royer sur Tyler Fritz. Chez les dames, Sarah Rakomantanga défiera la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka. Le tournoi débute dimanche 18 janvier sous le soleil de Melbourne. La grève des médecins libéraux a porté ses fruits. Le gouvernement renonce à une mesure contestée sur les arrêts maladie. Il n'y aura donc pas d'objectif imposé aux praticiens. L'exécutif assure aussi qu'il ne fixera pas seul les tarifs médicaux.
Merci Joséphine. Lise Oshkor nous a rejoint en studio. Elle revient sur la situation en Iran avec les mouvements de contestation du régime et la forte répression qui s'en est suivie.
Des corps allongés les uns à côté des autres. Voilà ce qui ressort des rares images obtenues de l'Iran depuis le début des manifestations. Elles proviennent principalement de vidéos filmées par la population elle-même et plus rarement de photos satellites. Le pays connaît une forte contestation du régime suite à l'effondrement de sa monnaie, le rial, et une grave crise économique. La réponse du gouvernement est immédiate, répression meurtrière et coupure d'Internet à l'échelle nationale pour contrôler l'information. Dans ces conditions, il est difficile de connaître le nombre précis de victimes, mais on l'estime entre 2000 et 20 000.
Mais comment expliquer une telle situation dans le pays ?
Pour véritablement comprendre ces circonstances, il faut au moins remonter à la révolution iranienne de 1979. Le pays est alors sous le contrôle du Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarque soutenu par les États-Unis et fortement impopulaire auprès de la population. Il maintient son pouvoir grâce aux méthodes violentes de la SAVAK, son service de renseignement. Le 11 février, le Shah est renversé après le soulèvement des Iraniens et Iraniennes. Au sein des manifestants, deux camps se distinguent, d'un côté les démocrates et de l'autre les conservateurs religieux. Ce sont ces derniers qui finiront par obtenir le pouvoir avec le retour de l'ayatollah Ruhollah Khomeini, figure très populaire en exil. Un référendum massif entérine le choix d'une république islamique, consacrant la fusion entre pouvoir politique et autorité religieuse. Dans les années 1980 et 1990, deux courants politiques émergent au sein même du régime, créant une nouvelle scission, les réformateurs qui tentent d'ouvrir le système et les conservateurs qui défendent la ligne théocratique. En parallèle, les premiers signes de contestation naissent avec de nouveaux groupes politiques comme les Moudjahidines du peuple s'opposant violemment au régime.
Des oppositions qui continuent de s'exprimer encore aujourd'hui.
Oui, surtout depuis la mort de Mahsa Amini en 2022. Son décès en garde à vue pour violation du code vestimentaire a tourné des regards accusateurs envers la police des mœurs. Est alors né le mouvement Femmes, Vie, Liberté, dénonçant les conditions difficiles des femmes en Iran face à un pouvoir conservateur violent. Les Iraniens et Iraniennes se rassemblent pour danser et chanter. Certaines femmes font le choix de retirer leur voile, tout cela en dépit des interdictions du gouvernement. Alors que ces nouvelles contestations semblaient s'être taries, l'Iran est redevenu depuis décembre 2025 le théâtre d'une nouvelle vague de protestations. Des manifestations descendent dans les rues du Grand Bazar de Téhéran et dans tout le pays. L'ayatollah Khamenei y est fortement critiqué, alors que la population réclame de meilleures conditions de vie, mais surtout un changement politique profond. 46 ans après la révolution qui a redessiné son ordre politique, l'Iran continue d'être traversé par des tensions profondes. La jeunesse iranienne réclame des réformes politiques pour plus de démocratie et de liberté, alors que le pouvoir se maintient autour d'une autorité religieuse centralisée. La répression menée depuis 2022 s'est fortement durcie ces dernières semaines, tandis que le peuple iranien, coupé du monde, en subit les conséquences dans le silence.
Une situation qui ne semble pas s'améliorer alors que Donald Trump évoque une potentielle intervention dans le pays. Il est 7h41, on enchaîne avec un sujet plus léger. À Hollywood, les Golden Globes ont donné le ton de la saison des prix. Voici le récap par Andrés Godefroy des grands gagnants et des moments marquants de l'édition 2026.
L'année 2026 à peine entamée, la grande machine hollywoodienne est déjà en marche. La saison des récompenses bat son plein aux États-Unis et après les premiers signaux donnés par les Critics Choice Awards, c'était au tour des 83e Golden Globes de faire briller le tapis rouge le 11 janvier dernier. Scrutés par la presse culturelle et les studios, ils ont la particularité de récompenser les sorties cinéma et séries dans différentes sous-catégories en séparant les comédies des drames par exemple. Côté cinéma, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson a raflé 4 récompenses, dont celle du meilleur scénario et du meilleur réalisateur. Une première pour le réalisateur de Boogie Nights, Magnolia ou encore There Will Be Blood. Le film suit un groupe de révolutionnaires d'extrême gauche poursuivis par un suprémaciste blanc dans une Amérique fracturée. Teyana Taylor, actrice du film, a d'ailleurs créé la surprise en obtenant un prix. En lice pour le même film, Leonardo DiCaprio a vu la statuette du meilleur acteur dans une comédie revenir à Timothée Chalamet pour Marty Supreme, nouveau long-métrage de Josh Safdie dont la sortie est prévue le 18 février prochain en France. L'acteur franco-américain de 30 ans a à nouveau confirmé sa grande ambition et s'est dit fier de faire face à de grands noms du 7e art. Wagner Moura, vu dans la série Narcos et Civil War d'Alex Garland, a lui aussi été récompensé pour sa prestation dans L'Agent secret de Kleber Mendoza Filho, où il incarne un chercheur traqué par des tueurs à gages sous la dictature brésilienne des années 70. Sortant comme l'un des grands vainqueurs de l'événement, il confirme ainsi son succès critique débuté à la croisette l'année dernière. Donné comme l'un des grands favoris également, Sinners de Ryan Coogler a dû lui se contenter du Golden Globe de la meilleure performance au box-office. Succès surprise de 2025, il suivait deux Michael B. Jordan dans l'Amérique ségrégationniste des années 1930 sous fond d'une intrigue de vampires. Oscarisé pour Nomadland en 2021, Chloé Zhao a signé quant à elle un retour triomphant en obtenant le prix du meilleur film dramatique. Cette tragédie explore de manière fictive le deuil d'Agnès et William Shakespeare après la mort de leur fils. Elle est menée par Paul Mescal et l'actrice irlandaise Jessie Buckley qui interprète l'épouse du dramaturge britannique et a été sacrée meilleure actrice pour ce rôle. Côté série, la soirée a aussi consacré les plateformes de streaming. Le prix de la meilleure série dramatique est allé à The Pitt, tandis que The Studio a remporté celui de la meilleure série comique ou musicale. Adolescence s'est imposé comme l'un des plus grands succès de la soirée, repartant avec plusieurs trophées, ce qui confirme la place majeure des mini-séries dans le paysage télévisuel actuel. Pour la deuxième fois, l'humoriste Nikki Glaser était maîtresse de cérémonie et n'a pas manqué de se moquer du ministère de la Justice américain, à qui elle a attribué le Golden Globe du meilleur montage pour la publication partielle du dossier Epstein, boulet politique du président Donald Trump.
Merci Andrés, les Golden Globes donnent désormais le coup d'envoi de la dernière ligne droite vers les Oscars. Verdict le 22 janvier prochain pour les nominations avant le grand soir du cinéma mondial dans quelques semaines. Vous écoutez toujours Good Morning Tour, il est 7h44 et tout de suite on marque une petite pause avec la chanson « À qui la faute » de Kery James et Aurel San.
Je voulais faire un film. Je l'ai fait, je n'ai pas attendu du Canal Plus, je n'ai pas attendu le CNC. J'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits. Alors j'ai écrit mon propre scénario, des panneaux vides. Je suis pas resté les bras ballants, je n'ai compté que sur mon talent. Je suis pas un fils de, il n'y a que ma détermination qui est le bras long. J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui ont deux fois moins de talent que moi en France. C'est normal pour un Africain. Tu me demandes à qui est la faute. En ce qui me concerne, je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Je porte mes victoires et mes échecs. Je suis pas un esclave, je n'ai pas l'état français pour maître.
Pourtant l'état français continue de vous la mettre. Et tu t'en sors peut-être, c'est que des miettes. Pour mieux faire croire que si t'as échoué, c'est que t'es bête. Parce que la pierre que le bâtisseur rejette finira dans la fenêtre. Un seul film de Kery James, 200 fait par des bobos de merde. Wow, tu t'en es sorti tout seul. Tu vois ce que je veux dire, tout seul. Pauvreté, combien sont sous le seuil. Depuis la bonne idée de l'état de s'enrichir sur les immigrés. Je refourguais les quartiers où la classe moyenne se suit.
Mais compare ces quartiers à ce que nos parents ont fui. Le poids la baisse et le luxe pour quelqu'un qui vient d'Haïti. Quand j'observe ceux qui ont plus, je me rappelle de ceux qui ont moins. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vu maman se plaindre. Sais-tu d'où l'on vient? Ouais, je m'en suis sorti tout seul. T'as bien compris, tout seul, hein. Pauvreté sous le seuil, les banlieues ne sont pas les seuls. Campagne à l'abandon, la misère est aussi rurale. J'en connais des petits blancs pour qui la vie est brutale.
Les blancs souffrent aussi, merci. Je voyais pas les news, la banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en bat les couilles. La France est dans le déni, mélange d'ignorance et de mépris. Parle pas d'ethnie, j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays. Je connais les quartiers vus par ceux qui mettent pas les pieds. Quand parle à tous les repas, n'envisage même pas d'aller voir les faits. J'ai grandi dans, traîne pas avec ces gens, tu vas te faire agresser. Mythes et légendes à la télé, faut s'intégrer sans qu'on se mélange. Galère sans contre-exemple, l'avenir sera ton présent. Pas de colonie sans conséquence, racisme anti-plan, tant de complaisance. Crois-moi, je connais cette France. Je dis pas que tout le monde est mauvais, je dis que peur et négligence rendent une population
méchante. Cache racisme en France, à qui le dis-tu? J'ai écrit une lettre à la République, toi, où étais-tu? On ne fait pas bouger les choses en dressant seulement des constats. Soupir ou agir, je vais te le dire, cache-moi. La vie est une question de choix, ni de gauche ni de droite. Mais si nos frères ne trouvent pas de taf, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part monter leur propre boîte? T'observes le monde avec un strabisme, t'es naïf. Tu crois encore à SOS racisme et au manif.
Je suis pas naïf, je suis trahi. Je crois plus qu'on m'a appris. L'égalité, la patrie. Ah oui, est-ce que c'est toi qui choisis? Monte ta boîte qui s'enrichit sur ton crédit. Rentre dans le système ou péris. Oublie tes rêves dans un hall de mairie. Tant qu'ils parleront d'élite, ils disent que tu peux t'en sortir si tu le mérites. Mais tu mérites de t'en sortir, c'est qu'une technique. L'État veut t'endormir et jouer les marchands de sommeil. Un seul modèle de réussite, le leur basé sur l'oseille. S'ils aident les jeunes, c'est à devenir des vieux comme eux. Tu peux toucher le jackpot, tu battras pas le casino à son propre jeu. Système en pyramide, l'argent monte, la merde reste en bas. Je dis pas que tout le monde est dans le complot, je dis que ça les dérange pas.
J'ai des frères qui sont partis. Je vois pas la tessie en rose car j'ai poussé parmi les sorties. J'ai vu des mecs remplis de vis fumer un type que leur mère considérait pourtant comme leur propre fils. Balle dans la tête, mort violente. Est-ce l'État qui appuie sur la détente? Comme dans les quartiers nord, on finit par s'y faire. On n'a jamais eu besoin de l'État pour remplir nos cimetières.
Baveur policière, pas de filet de sécurité. Contrôle d'identité à l'âge où tu sais pas quitter. Finir par glorifier des trucs peu glorieux. Grandir dans le feu, y'a plus d'obstacles, ils sont plus dangereux. Mets ta vie en jeu. Trafic de stup à des fils de enfermés. Pour qui sait, va t'en soirée, t'es qu'un pion dans leur petit jeu. Des politiques, y'a que la gloire qui les motive. Comment croire le contraire quand les présidents sont des meufs du showbiz?
Dans le showbiz, combien de banlieusards millionnaires ont banni le mot solidarité de leur dictionnaire? De l'oseille, on en a pris, hein? Combien d'entrepreneurs, combien de stars la banlieue a produit? Mais le succès les rend amnésiques. La peur de perdre ce qu'ils croient posséder. Paraplégique. Combien osent monter au créneau? Combien osent leur faire face quand ils nous salissent dans leurs journaux? À qui la faute? Je n'essaie pas de nier les problèmes. Mais je ne compte pas sur l'État, moi, je compte sur nous-mêmes. À qui la faute? Cette question appartient au passé. Je n'ai qu'une interrogation, moi. Qu'est-ce qu'on fait?
À qui la faute? Dis-moi, à qui la faute? À qui la faute? Dis-moi, à qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Dis-moi, à qui la faute?
C'était Kerry James et Aurel San avec leur titre « À qui la faute ?». Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Tour, il est 7h50. Olivia nous parlait de l'INSEE, place maintenant à un autre rapport paru cette semaine, celui de l'ANSES. Il porte sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé des adolescents. Joséphine est de nouveau en studio pour nous en parler.
Et oui Clara, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, des plateformes omniprésentes dans le quotidien des adolescents, mais pas sans conséquences. Ce mardi, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a publié un rapport consacré aux effets des réseaux sociaux sur la santé des jeunes. 5 années de recherche, un groupe de travail pluridisciplinaire et un constat clair. Les réseaux sociaux exploitent des vulnérabilités propres à l'adolescence. Leur objectif est connu. Capter l'attention, like, algorithme, scroll infini, tout est conçu pour prolonger le temps passé en ligne. Or, l'adolescence est une période de construction. Construction d'identité, besoin de reconnaissance, besoin d'appartenance. Selon l'ANSES, cette exposition prolongée peut avoir plusieurs effets sur la santé. D'abord, des troubles du sommeil, notamment lorsque les réseaux sont utilisés avant le coucher. Ensuite, une dégradation de l'image de soi, les contenus valorisant certains corps, favorisent la comparaison sociale et peuvent conduire à des troubles du comportement alimentaire. Le rapport évoque aussi une exposition accrue aux comportements à risque, mais également aux cyberviolences et au cyberharcèlement. L'ANSES alerte également sur des risques anxio-dépressifs et suicidaires amplifiés par les algorithmes de recommandation. Face à ces constats, l'agence formule plusieurs recommandations. Mieux encadrer les plateformes, renforcer l'éducation aux médias et développer la prévention. Car pour autant, les réseaux sociaux ne sont pas que négatifs. Ils permettent aux adolescents de communiquer, de tisser des liens, de s'exprimer. Ils offrent également un accès rapide à l'information et aux ressources éducatives, contribuant ainsi à l'apprentissage et à la créativité. Sur le plan législatif, la France entend agir. Un projet de loi vise à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et le téléphone portable au lycée dès la rentrée 2026. Sur le plan international, l'Australie a interdit l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, une décision contestée par Meta. En France, près de 90% des 12-17 ans utilisent un smartphone chaque jour.
Merci Joséphine. Selon l'ANSES, l'enjeu n'est donc pas d'interdire, mais de construire un environnement numérique plus protecteur pour les adolescents. Il est 7h52, on arrive bientôt à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, aujourd'hui on vous gâte avec pas un mais deux billets d'humeur. Bonjour Swan.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous nous parlez de la caricature de Rokhaya Diallo dans Charlie Hebdo.
Oui. The Charlie Hebdo Show, lorsque le journal satirique justifie son racisme au nom de l'universalisme républicain. Cacher son racisme derrière l'universalisme, réduire le multiculturalisme à du communautarisme, c'est tout ignorer de la lutte antiraciste. Caricaturer la journaliste française Rokhaya Diallo en dansant à moitié nue avec une ceinture de banane devant une foule d'hommes blancs hilares, en prétendant rendre hommage à Joséphine Baker, fallait oser, Charlie l'a fait. Dans un dessin paru fin décembre, le journal satirique présente une caricature grossière de l'essayiste en reprenant tous les codes racistes de l'époque coloniale. Elle y est représentée avec des grosses lèvres, un corps cambré, dansant avec une ceinture de banane autour de la taille. Vouloir critiquer ses positions sur la laïcité est une chose. Réduire sa pensée à son corps en invoquant l'imaginaire colonial relève d'un racisme et d'un sexisme crasse. Le journal se défend et revendique sa ligne antiraciste et universaliste. Principe selon lequel la République traite tous ses citoyens de manière égalitaire en faisant abstraction de leurs particularités. Un universalisme, donc, qui ne verrait pas les couleurs, contrairement au communautarisme dont est accusée la journaliste, qui, selon l'hebdomadaire, réduirait l'identité des personnes racisées à leurs origines ethniques. Pourtant, le dessin parle de lui-même. Au lieu de débattre avec la journaliste, Charlie préfère l'assigner à sa couleur de peau et la déshabiller. Il ne s'agit pas de faire une diatribe contre le journal, mais bien d'une critique de la pensée universaliste qui imprègne encore certains médias français. Expliquer à une femme noire, militante antiraciste, comment mener la lutte contre le racisme, c'est perpétuer un schéma paternaliste et néocolonial. Minimiser les violences qu'elles subissent, c'est silencier les victimes. Lorsque les journalistes de Charlie Hebdo s'emparent de la question du racisme, ils oublient de se demander d'où ils parlent. Au nom de l'universalisme, les journalistes arrogent le droit de décider ce qui est raciste ou ne l'est pas. Décoloniser les médias commence pourtant par là, se rappeler d'où l'on parle en tant que journaliste. Tant que les rédactions et les écoles de journalisme resteront des lieux de reproduction sociale, les médias perpétueront ces violences. S'accaparer la question du racisme sans le vivre, sans conscience de son propre point de vue eurocentré, c'est le faire subir une nouvelle fois aux victimes.
Merci Swan, et comme l'a écrit Frantz Fanon, il faut voir ailleurs qu'en Europe. Pour le second billet d'humeur de la semaine, on change de ton. Angelina, tu te confies sur ton rapport à la nourriture qui évolue ces derniers temps. Toi qui, il y a peu, ne connaissais qu'un seul repas.
J'ai toujours détesté cuisiner. Je trouvais que c'était beaucoup de temps pour quelque chose que je mangeais en quelques minutes. Les calculs étaient pas bons. Je me nourrissais à base de pâtes, et puis encore des pâtes. Et c'est ok, hein, ça coûte pas cher et c'est facile à préparer. Et quand on est étudiant, c'est compliqué de sortir de ce schéma. Mais j'avais besoin de me réconcilier avec la nourriture, car moi-même, manger toujours la même chose, c'était un peu étouffant. J'avais besoin d'apprécier davantage ce qu'il y a dans mon assiette pour mieux apprécier mon corps de femme qui évolue. Mais c'est surtout mon corps qui a dit stop aux pâtes, et mon organisme le faisait comprendre. J'ai pas eu le choix de changer mon alimentation un minimum. Maintenant, je peux le dire haut et fort, j'aime bien les légumes. J'avais longtemps pensé qu'il n'y avait que les légumes verts qui existaient, et qui eux, ça c'est sûr, je les aime pas, mais j'ai appris à cuisiner des carottes, des poivrons, des champignons, et en fait, c'est swag. Je vais sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver des recettes gourmandes, mais qui changent un peu. Je me prends pour une cuistot, et j'envoie chaque plat à mes copines, comme si c'était la 8e merveille du monde. Je choisis surtout les légumes le moins cher, car ça aussi c'est un vrai critère quand on regarde le prix exorbitant pour se nourrir, rajouté à la précarité étudiante. Je regarde aussi des légumes qui m'inspirent. En vrai, c'est surtout pour leur couleur, mais je vous jure que ça marche. Et je mange pas non plus que ça. Mais mon assiette ressemble davantage à un arc-en-ciel, ce qui me rapproche de ma communauté et qui donne envie de manger plus varié.
Merci Angelina Richard pour cette chronique culinaire. Il est 7h56 et c'est déjà la fin de cette matinale. Un grand merci à vous de l'avoir écouté. Merci à tous les participants. Joséphine Dao de Venins, Nicolas Duverger, Olivia Heidenreich, Youn Rollin, Ami Wan, Rachel Giraudot, Lise Hochkorn, Andrés Godefroy, Angelina Richard et Swan Hassen. Sans oublier bien sûr nos vaillants techniciens Andrés, Antoine et Angelina qui se sont levés tôt pour assurer la régie. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même fréquence, 99.5 FM. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée à toutes et à tous.